Père éternel, merci pour ce culte de ce matin. Tu vois le rappel des promesses que tu as accomplies en Jésus-Christ et que nous pouvons saisir aujourd'hui par la foi. Tu vois, Père éternel, nous te remercions aussi pour ton œuvre à la croix. Et nous te remercions, Père éternel, pour ton œuvre dans nos vies. Et tu vois, Seigneur Jésus, que parfois nous passons par des moments difficiles et tu les permets. Et Père éternel, nous désirons ce matin que tu sois glorifié dans nos vies, que tu puisses réconforter les cœurs brisés, relever les personnes affaiblies et publier cette année de grâce. Vraiment, Père éternel, merci pour ta grâce puissante et agissante et nous comptons sur elle ce matin pour nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Lorsque nous sommes partis en vacances, mon épouse et moi, et mes enfants, en janvier 2013, nous avons décidé d'aller dans une petite station de ski des Pyrénées, à Font-Romeu. Lors de notre départ, j'avais envie de passer par un autre chemin que d'habitude. J'ai donc pris l'autoroute en direction de Montpellier. Ça, c'était le chemin normal. Et au lieu de sortir direction Foix et puis continuer en passant par Acléterne, puis nous avons continué sur l'autoroute en direction de Perpignan. Nous voulions, ou plus exactement, je voulais, car le GPS m'a indiqué au moins 25 fois de faire demi-tour, inquiétant mon épouse à chaque fois, diminuer au maximum les routes sinueuses de montagne et suivre les conseils d'un couple d'amis qui avait apprécié le trajet. Je crains qu'ils n'avaient pas la même voiture que nous. À n'en pas douter, j'avais l'espoir d'un trajet calme et sans encombre, tant pour moi que pour ma famille. Pourtant, lorsque nous avons bifurqué sur l'autoroute pour descendre vers Perpignan, Mylène conduisait, je faisais un petit somme, qui n'a d'ailleurs pas duré très longtemps, quand un vent de côté s'est mis à souffler, avec des rafales de plus de 100 km/h, faisant tanguer le véhicule comme un bateau en haute mer. Tout le trajet en direction de Perpignan a donc été pénible, et les rafales de vent ne nous ont pas laissé beaucoup de tranquillité dans la conduite. Mais ce n'est pas tout. Une fois sortis de l'autoroute, nous pensions minimiser le temps de conduite dans la montagne. Encore une fois, une nouvelle erreur. La route s'est rétrécie et nous voilà partis dans les routes montagneuses des Pyrénées, aussi longues, si ce n'est plus, que lors de notre trajet précédent. Bref, nous avons fini par arriver avec 2 heures de retard par rapport à nos prévisions et nous avons subi un voyage des plus chaotiques, alors qu'il se devait être tranquille. Voilà ce que nous espérons souvent pour notre vie chrétienne. Nous espérons que nous aurons de l'autoroute la plus longue possible. Nous espérons une vie bien tranquille. Ça commence maintenant, je suis mal, hein ? Où tout nous sourira et Dieu sera toujours là pour pourvoir à nos besoins, plus ou moins immédiatement. Car comme nous le souligne souvent des amis chrétiens bien intentionnés, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Bref, nous nous attendons souvent à une vie chrétienne facile, victorieuse et semée, certes de quelques embûches, mais qui finissent toujours par s'estomper. Pourtant, la vie chrétienne, comme pour mon trajet, nous réserve quelques surprises. Qu'il vaut mieux connaître si nous ne voulons pas abandonner la foi. Pour cela, je vous invite à un voyage dans le temps, un retour vers le passé, pour découvrir la vie chrétienne d'un homme célèbre de l'Ancien Testament. C'est un personnage qui a vécu des victoires exceptionnelles avec Dieu et qui a vu la puissance de Dieu agir au travers de lui. Est-ce que ça vous donne envie? Je ne vois pas réagir, vous ne dormez pas encore, c'est bon? Des victoires exceptionnelles avec Dieu et qui a vu la puissance de Dieu agir au travers de lui. Est-ce que ça ne vous donne pas envie, ça? D'accord, ça vous donne envie? Bon, j'ai réussi quand même à vous donner envie. Vous attendez le coup fort à arriver, je peut-être. Si cela vous donne envie, je vois qu'à peu près j'ai réussi à avoir une adhésion, c'est aussi une personne qui a sombré sans doute dans l'une des dépressions les plus sérieuses que la Bible nous relate. Est-ce que cela vous donne encore envie? Là, c'est clair que non. Ce matin, j'aimerais vous raconter la deuxième partie de notre trajet. J'aimerais vous parler. Non, tu peux revenir en arrière, excuse-moi. Oui, c'est vrai. J'aimerais vous parler de la face cachée de la vie chrétienne. Celle que nous ne parlons pas souvent. Celle que nous ne voulons pas vivre, mais que Dieu désire pour nous faire grandir dans sa connaissance. Je vous invite à découvrir la vie d'Élie et principalement la face cachée de sa vie. Alors, avant de lire exactement le texte en lui-même, je vais refaire un petit flashback avec vous du contexte. Donc, rapidement, le peuple d'Israël vient d'être libéré d'Égypte, il a traversé le désert, Moïse l'a fait traverser pendant 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Josué, son relais, rentre dans le pays. Voilà, les victoires, voilà, différentes victoires, Jéricho, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël s'installe dans les villes. Il obéit plus ou moins à Dieu. Puis on a le passage des juges qui permettent au peuple d'Israël de revenir régulièrement à Dieu parce que le peuple s'en éloigne systématiquement. Puis avec la naissance de Samuel, on augure une nouvelle ère où Dieu va parler à travers un prophète. C'est pas moi. Le prophète Samuel, et qui ensuite, le peuple en a assez suite à la venue des enfants de Samuel et il décide d'avoir un roi. Donc, nous avons la royauté et commence par Saül, puis Saül est destitué au profit de David. David a un long règne. Puis c'est Salomon, son fils, qui lui succède. Et puis la décadence après Salomon s'accumule et une liste de rois arrive au fur et à mesure. Et puis ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, suite à Salomon, il y a le royaume du sud et le royaume du nord qui sont séparés. C'est le royaume avec Jéroboam au nord et Roboam au sud. Jéroboam instaure des hauts lieux. Pour éviter le peuple de revenir à Jérusalem, il fait des hauts lieux à Bethel pour adorer, ce qui déplaît très sérieusement à l'Éternel. Puis s'enchaînent divers rois après, je ne vous les cite pas. Et nous voilà arrivés dans notre contexte. Donc, notre roi, qui est celui au temps d'Élie, le roi Akab. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Akab, mais Akab, un roi 16 nous dit que Akab, verset 30, le fils d'Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. On voit que ça commence mal, hein ? Ça commence très mal. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, donc d'avoir laissé les hauts lieux, Il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal, le dieu de la pluie et de la fertilité, et se prosternait devant lui. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Donc on voit que Akab était vraiment un roi idolâtre qui a préféré les idoles à Dieu, et les idoles de la fertilité et de la pluie. C'est dans ce contexte que nous avons le début du ministère d'Élie, un roi 17, où l'on voit que Élie arrive, on ne sait pas d'où, de nulle part, en roi 17.1. Et qu'est-ce qu'il proclame ? Il proclame, il n'y aura pas de pluie ces années. Alors c'est rigolo, ouais, parce que vous avez vu, ils adorent Baal, qui est le dieu de la fertilité et de la pluie, et Élie annonce qu'il ne va pas avoir de pluie. Puis après, qu'est-ce qui se passe ? Dieu demande à Élie de fuir. C'est Dieu qui lui dit de partir en direction du torrent de Kérit, où vous connaissez l'histoire. Dieu va pourvoir à Élie au torrent et va pourvoir aussi par des corbeaux à la nourriture. Il lui a dit que c'est Dieu qui lui a dit « Pars, tu vas être nourri par des corbeaux ». Si j'avais été à sa place, j'aurais un peu tourné de l'œil, mais... les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Quand même assez fou, hein. Mais bon, la pluie ne venant pas, le torrent fut à sec et Dieu envoya Élie par à Sarepta. Vous savez où c'est, Sarepta, c'est dans le nord, c'est en Phénicie. Et là, tu seras nourri cette fois-ci par une veuve. Une veuve, vous savez qu'en général, ça n'a pas grand-chose à vivre. Hein. Il n'y a pas grand-chose chez une veuve. Elle n'a plus de mari. Et là, Dieu pourvoit et Dieu dit qu'il aura à manger au travers de cette veuve. Puis après ce passage, il y a le fils de la veuve qui décède et la veuve qui demande à Élie, mais pourquoi ? Mon fils meurt, est-ce un jugement de Dieu contre moi ? Élie intercède et Dieu ressuscite cet enfant. Après cette escapade d'Élie pour échapper à la famine voulue par Dieu, il rentre et comme Dieu lui a décidé de faire, il va voir Akab et il, vous connaissez l'histoire, il organise une confrontation avec les prophètes de Baal. Et là, que se passe-t-il ? Deux autels, les prophètes de Baal, ils font du cinéma, ils essayent de... Élie leur dit, on va mettre un taureau, on va sacrifier l'Holocauste, c'est votre Dieu ou le mien qui va intervenir et qui va brûler l'Holocauste. Alors, les prophètes de Baal étaient très nombreux, alors qu'Élie était tout seul. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il leur dit, ben, commencez, vous êtes nombreux. Donc, ils font des incantations, et puis ça n'avance pas. Et puis, à un moment donné, Élie, à midi, il a dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti, votre Dieu, il est parti en vacances. Il commence à se moquer d'eux. Et puis, ils continuent l'après-midi, ils se font des incisions. Tout ça pour, au final, l'absence. Alors, Dieu intervient. Élie fait l'autel. Il met de l'eau sur l'autel pour dire que vraiment, c'est pas du cinéma, c'est pas... Il met de l'eau pour que vraiment, il y ait une démonstration totale de la puissance de Dieu. Élie prie et le feu du ciel tombe sur l'Holocauste et fait la victoire totale d'Élie et les prophètes de Baal sont tous égorgés avec un objectif de purification. C'est dans ce contexte de victoire que nous allons lire notre passage d'un roi 19. La vie d'Élie est vraiment extraordinaire. Malgré son attitude solitaire, il est un héros, vous venez de le voir. Il est un héros de Dieu et avec lui s'accomplit des actes extraordinaires. En plus, sa confiance en Dieu est vraiment forte et inébranlable. En un sens, Élie ne fait rien de particulier, mais il est au bénéfice d'un Dieu agissant, qui fait de grandes choses. Pourtant, sa vie ne va pas s'arrêter là. Souvent, nous contentons d'entrevoir le bon côté de la vie chrétienne, celle où nous avons la victoire sur nos peurs ou la victoire sur nos inquiétudes par Jésus-Christ. Pourtant, nous oublions souvent la face cachée de la vie chrétienne. Nous n'aimons pas parler de celle-là. Pourtant, elle a des choses à nous apprendre. Et je vous invite à lire avec moi ce que va découvrir Élie, le prophète, et ce que nous allons découvrir sur sa vie. 1 Roi 19, je vais lire le chapitre en entier. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela, il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il y entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, Élie l'entendit. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie en plus. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7 000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Tout roulait. Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce que Akab rapporte ce qu'avait fait Élie, et notamment la tuerie des prophètes de Baal. Alors Jézabel décide de faire dire à Élie son désir de l'éliminer. La réaction d'Élie est inattendue par rapport à tout ce que celui-ci a vécu et tout ce que nous avons pu parcourir tout à l'heure. il est plongé dans un état de désillusion complète. Certes, il a remporté une immense victoire au Mont Carmel, où il a vécu des émotions fortes. Il y pensait qu'il était arrivé et que la lutte était finie et la victoire définitive. Et voilà que Jézabel menace Élie. Aïe ! La bataille n'est pas terminée. Papy fait de la résistance. C'est pas tout à fait papy, mais... Ou plus exactement, Jézabel en fait. La victoire n'est pas si incontestable ni définitive qu'il le pensait. Jézabel est toujours là pour influencer la nation et le faible roi Achab. Élie doit vivre une déception profonde. Il croyait être arrivé au bout de sa mission et de ses efforts. Et ils étaient nombreux. Eh bien non. Il faut recommencer. Il faut continuer à lutter. Même pire, il n'y a même pas un petit moment de répit. Il faut faire face à Jézabel. La bataille continue. Mais à ce moment-là, la grande différence est qu'il est fatigué. Il est lassé de Dieu. Et sans doute déçu par Dieu, car sa fidélité et son zèle n'ont pas été récompensés par une victoire définitive, totale, immédiate. La réaction d'Élie est décrite dans notre texte par plusieurs petites phrases. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Entre parenthèses, sauver. Il arriva à Bethsheba, qui appartient à Juda, et il est son jeune serviteur. Ces petites phrases expriment avec quelle panique il est pris. En plus, le texte nous fait un petit résumé de deux petites lignes. Pourtant, ils viennent de parcourir plus de 150 kilomètres. C'est à l'autre bout d'Israël. Élie craque complet. Il déprime. Il est au bout de lui-même. Il est plein d'incohérences. Il fuit par peur de la mort. Et pourtant, en même temps, il demande la mort, verset 4 de notre passage. Élie a dépensé toute son énergie pour instaurer un réveil et Dieu n'a pas assuré. Dieu n'a pas assuré une victoire définitive et complète. Il n'a pas permis un changement réel de la situation d'Israël. Élie ne voit plus ce qu'il peut faire de plus pour que la situation s'améliore. Réellement. Ses efforts semblent vains. L'opposition continue et il le vit comme un échec. La situation par laquelle Élie passe nous est-elle étrangère parfois? Est-elle étrangère à nos vies? Ou est-ce que vous êtes en train de passer peut-être par une situation identique à celle d'Élie? Notre vie spirituelle est jalonnée par des hauts et des bas. Lassé parfois de faire le bien, nous en avons assez de courir après 36 000 choses que nous faisons dans notre ministère, mais qui en état de tension sont vécues comme des échecs. Mais parfois, et comme Élie, un obstacle peut se dresser sur notre chemin, au cours de notre marche spirituelle, notre marche avec Dieu. Nous avons l'impression d'entrer dans un mur qui nous arrête net. Vous êtes rentré dans un magasin à toute berzingue, croyant que la porte était ouverte. En fait, elle ne l'était pas. Et vous êtes pris en pleine face une porte en verre quasi invisible qui venait juste d'être nettoyée. La première réaction est le choc. Vous êtes sonné et tellement surpris de cet arrêt brutal dans votre élan que vous vous demandez ce qui vous est arrivé. La seconde réaction est de savoir si vous avez été vu. Comment réagissent-ils? Se moquent-ils ou sont-ils compatissants? De la même manière, dans notre cheminement spirituel, nous pouvons parfois rentrer dans un mur, au sens figuré, qui nous stoppe dans notre marche et nous secoue au plus profond de notre être. Un mur que nous ne pouvons ni éviter, ni contourner, et que nous allons devoir traverser coûte que coûte. Il ne s'agit pas ici d'un petit obstacle, mou sur lequel nous rebondissons comme une balle pour continuer notre route. Mais cet obstacle dur comme du béton nous arrête net et nous plonge dans un état de confusion profonde, de désillusion. Il va provoquer une grande crise existentielle. Ce mur aura une forme différente pour chacun, mais il s'agira toujours d'une crise dans notre vie personnelle. Celle-ci pourra toucher des domaines différents, la santé, la famille, couple, enfant, autres, le travail, l'église. Elle pourra être une injustice dont nous sommes victimes aussi. Au fond, rentrer dans un mur, comme l'a expérimenté Élie, va impliquer la mort de notre sentiment de toute puissance et de notre capacité de toujours retomber sur nos pieds. En rencontrant ce mur, nous apprenons vite que nous contrôlons que peu de choses. Nous faisons profondément l'expérience de notre fragilité et de notre finitude. Pour la première fois dans notre texte, notre super-héros fait face à ses limites physiques et émotionnelles. Il est physiquement et émotionnellement exténué. « C'en est trop !» il nous dit. « Maintenant, l'Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie est face à sa vulnérabilité et sa fragilité. Le terme hébreu utilisé pour « c'en est trop » est « rab ».« Rab ». Or Dieu, en face de cette fragilité et de ses limites, il répond en disant « rab ». Oui, c'est « rab ». C'en est trop. Oui, c'en est trop. Élie découvre à travers cette prise de conscience de sa fragilité et de sa finitude un Dieu qui agit tendrement comme une mère qui pourvoit aux besoins physiques de son fils. Il le laisse dormir, manger et boire, lui rappelant ainsi son amour et sa présence envers lui dans le passé. Les mots galette et cruche sont identiques en 1 Roi 19 que dans le chapitre 17, dans le récit de la veuve. Ces termes sont très rares dans la Bible et ainsi le lien est facilement établi. Dans cette phase difficile, Dieu lui rappelle sa présence, perceptible, discernable. Mais ce n'est pas tout. Élie, le prophète solitaire, celui qui appréciait ce sentiment de vie, éprouve un nouveau sentiment, celui de la solitude. En pleine dépression, il préfère s'isoler. On l'a vu tout à l'heure, il laisse son serviteur. Il est fort remarquable que les gens qui passent par une très grande crise de leur foi expérimentent cette même volonté de repli sur eux. Son sentiment d'isolement se reflète également dans la description du jeûner. L'arbre, le jeûner. Le texte hébreu souligne deux fois qu'il s'agit d'un jeûner, alors que normalement cet arbuste ne se trouve jamais seul. Élie est donc seul, sous un arbre isolé. Et Élie exprime ce sentiment de solitude. « Je suis resté moi seul. » Et il le répète deux fois, verset 10 et verset 14. Il se sent seul à défendre Dieu. Ce qui dans le passé peut être considéré comme une vertu, être un prophète solitaire, mais vainqueur, est devenu une solitude pesante et une source de désespoir. Élie redécouvre une situation d'incertitude qu'il avait sans doute oubliée ou peut-être jamais vécue. Nous n'aimons pas l'incertitude. Et nous avons besoin de savoir où nous allons, de planifier autant que possible notre avenir, de construire des repères qui nous rassurent. Les certitudes sont le socle sur lequel nous pouvons nous reposer ou nous appuyer pour aller plus loin. Avoir une famille, un travail aussi assuré que possible et des revenus fixes, voilà des certitudes qui font du bien. C'est une nécessité au point que l'assurance est devenue une part importante de notre économie. Elle est source de certitude. S'il m'arrive telle catastrophe, je pourrai sortir car je suis assuré. Mais un jour, comme Élie, débutant comme les autres, un jour que nous n'avons pas vu venir, les choses ont changé. Toujours est-il que nos certitudes sur l'avenir ont commencé à se fissurer. Nous avons cessé de savoir ce que demain serait fait. Et nous sommes réellement perdus, désorientés. Nous attendons avec la confiance la voix, le guide qui nous indiquera la route, mais rien ne vient. Nous sentons comme suspendus dans le vide. Mais en entrant dans cet état d'incertitude comme Élie, de nouveaux horizons s'ouvrent. Les engagements qui nous retenaient, ces lieux où nous étions indispensables, toutes ces personnes qui comptaient sur nous et que nous ne voulions pas décevoir, tout cela a été brutalement allégé. Notre route est devenue floue. C'est alors que d'autres chemins se sont ouverts. L'horizon s'est élargi. Certes, mais nous ne savons pas encore quel chemin choisir. Il est possible de se ronger les sangs en désespérant de voir le bon chemin. La pensée alors tout entière tournée vers l'avenir. Et ce qui le rend encore obscur ne peut faire que souffrir. Lamentation, regret de la perte de nos certitudes anciennes. Il y a dans ce domaine bien des façons de perdre son temps. Ou bien, je peux choisir d'habiter le lieu où je suis. Je pourrais peut-être essayer de vivre au mieux l'aujourd'hui qui m'est donné. Tomber dans une situation d'incertitude nous semble souvent hors du commun. Pourtant, l'était-ce réellement ? Car des millions de gens avant nous et autour de nous l'ont vécu. On dit ou l'on pense si facilement lorsque cela touche quelqu'un d'autre, ce sont des choses qui arrivent. Mais comment se fait-il alors que ces situations qui arrivent si souvent et qui peuvent nous toucher n'importe quand entrent si peu dans notre manière d'appréhender le monde et la vie ? La vie est une situation d'incertitude et de fragilité. Il suffit d'un caillot dans le sang, d'un faux mouvement conduisant ma voiture, ou de celui du conducteur d'une autre voiture, d'une maladie que je n'ai pas vue venir, d'un soubresaut de la nature, de l'histoire, de l'économie, ou bien d'autres choses que je n'imagine pas, pour que ma vie bascule, vers ce que je ne connais pas, ni ne soupçonne. Cela revient à dire que cette incertitude n'est pas si extraordinaire que cela. Elle est notre situation naturelle, bien que non ressentie, habituellement, même si nous nous appliquons à trouver tous les moyens possibles pour nous en protéger. Nous ne savons pas ce que demain sera fait. Cela va de soi, c'est une grande vérité, nous le savons depuis toujours et pourtant nous cherchons à assurer l'avenir pour justement conjurer cette affirmation qui sonne comme un mauvais sort qui nous serait lancé. Cette incertitude nous pousse donc vers la nécessité de la confiance. Le problème, c'est que nous ne savons guère faire autrement que cacher la réalité de notre situation en nous confiant souvent en ce qu'il faut bien appeler des illusions. Sans la confiance, nous ne pourrions pas vivre. La question n'est donc pas de savoir si cette confiance existe. Elle existe, même si elle reste toujours implicite. La vraie question est de savoir en quoi ou en qui nous mettons cette confiance. Et peut-être surtout de savoir si cette confiance cherche à remplacer, à gommer l'incertitude, ou si elle l'accepte comme point de départ. Ce n'est pas un chemin facile à arpenter, mais c'est sans doute un des apprentissages les plus profonds que Dieu veut pour notre vie. Corriger notre vision de Dieu. Après un temps de repos donné par Dieu, Élie va à Horeb, dans la caverne, 1 Roi 19:9. L'article défini indique une caverne précise, déjà connue des auditeurs, des lecteurs. Il s'agit sûrement de la caverne citée en Exode 33 et 34, où Moïse a reçu une vision de Dieu dans une période de sa vie de grand découragement et de déception. D'ailleurs, les 40 jours et les 40 nuits passées à marcher, évoqués au verset 8, rappellent cette histoire de Moïse qui est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Élie va donc où Dieu s'est déjà révélé. Il va à la rencontre de Dieu. Mais de quel Dieu ? Lisons les paroles d'Élie. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Quand Élie parle de l'Éternel, celui-ci utilise un terme qui exprime sa force, sa puissance. Le Seigneur, le Dieu des armées. Comme si, pour Élie, Dieu faisait toujours avancer son royaume de manière spectaculaire, amenant des changements définitifs et victorieux. Au premier coup. Mais dans cette caverne, Élie reçoit une autre vision de Dieu. Il y eut un grand vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était plus dans ce qui, dans le passé, évoquait sa présence pour Élie. Dieu s'est manifesté autrement que ce qu'Élie avait expérimenté précédemment. Par cette manifestation, Dieu souligne qu'il n'intervient pas toujours d'une manière spectaculaire, éclatante, comme au Mont Carmel avec les prophètes de Baal. Sa présence ne se limite pas au spectaculaire. Vent, fort, tremblement de terre, feu, des choses un peu tape à l'œil. Il est présent aussi dans le silence. Il est à l'œuvre aussi bien quand tout semble silencieux et insignifiant. Dieu est à l'œuvre, mais d'une manière différente de celle qu'Élie s'attend. Par ce temps de crise, Dieu invite Élie à corriger des conceptions étriquées et à entrer dans de nouvelles compréhensions. Il est vrai qu'une certaine désorganisation est propice à l'apprentissage, à l'ouverture aux choses nouvelles. Dieu invite Élie à une nouvelle compréhension de la manière dont il travaille. Élie avait une vision incomplète de Dieu. Dans cette crise sombre par laquelle le prophète est passé, Dieu ouvre à Élie une vision nouvelle. Laissez Dieu être Dieu. Dieu ne se confine pas dans la boîte que nous lui avons construite. Si nous passons par une crise de notre foi comme Élie, sommes-nous prêts à une remise en question de savoir qui est Dieu ? La présence de Dieu dans le doux murmure pour Élie est une révélation sans précédent de la grâce de Dieu dans sa vie. Corrigé par rapport au sens de la communauté. Dieu invite Élie, le prophète solitaire, à découvrir le sens de la communauté. Il souligne l'existence de 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou et adoré Baal. Il lui donne un compagnon à la personne d'Élisée, quelqu'un qui portera les fardeaux avec lui. C'est comme si Dieu disait à Élie, « Élie, tu dois retrouver le sens de la communauté. Tu n'es pas un électron libre appelé seul en mission. Non, il y a des gens comme toi qui ont refusé un compromis avec des faux dieux et qui ont été vêlés pour moi. Sois en communion avec eux. Ensemble avec eux, trouve la force et l'encouragement pour continuer ton ministère. » Nous voyons à partir du chapitre 20 qu'Élie a sa place parmi d'autres prophètes du Seigneur. Et nous, si nous passons par une crise profonde notre foi, acceptons également de redécouvrir l'aide de la communauté et de nos frères et sœurs pour découvrir tout simplement que nous ne sommes pas seuls à vivre des heures noires. Au contraire, bien d'autres vivent la même chose que vous, que nous, et attendent votre soutien et vous le leur. Corrigé par rapport à lui-même. Dieu invite Élie à une nouvelle compréhension de lui-même, de ses propres limites et de son rôle dans le ministère. Au chapitre 19, Élie dit, « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Qui lui a dit qu'il l'était. Apparemment, il a pensé. La crise lui a montré qu'il n'était pas le super-héros meilleur que ses pères, plus efficace que ses pères. Les crises de la foi sont toujours là pour abattre les super-héros que nous croyons être devenus. Comme l'apôtre Paul l'a expérimenté puissamment lorsqu'il a subi une souffrance dans la chair que Dieu n'a jamais enlevée. Sans doute l'une des plus grandes crises de l'apôtre Paul, mais où Dieu a désiré lui apprendre sans doute l'une des choses les plus importantes pour sa vie chrétienne et pour notre vie chrétienne. Et nous le retrouvons dans 2 Corinthiens. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Nous ne comprendrons jamais cela pour notre vie chrétienne si Dieu ne nous a pas fait passer par une crise de foi qui a abattu suffisamment fort notre moi. Nous avons donc découvert aujourd'hui la face cachée de la vie chrétienne, à savoir la crise de la foi. Élie en a vécu une. Et cela a remis beaucoup de choses en question. Le texte biblique n'est pas très explicite sur qu'est-ce qu'il en a fait avec, mais il semble en tout cas retrouver de l'espérance et du courage, puisqu'il obéit à Dieu pour parler à Achab de son sort futur ainsi que celui de Jézabel. Je vous invite à lire les passages d'après, jusqu'à 1 Roi 21 et jusqu'à 2 Rois. Nous voyons aussi que dans ces nouvelles compréhensions, le spectaculaire n'est pas exclu de sa vie après la révélation en Horeb. Nous avons vu que les crises de la foi sont des étapes obligatoires de la vie chrétienne. Des étapes, des moyens pour nous rappeler notre fragilité. Des outils pour corriger notre vision de Dieu, de nous-mêmes. De Dieu, notre vision de Dieu, de nous-mêmes et de nos frères. Si vous passez actuellement par une crise de foi, soyez rassurés dans ce moment d'incertitude. Et regardez au fait qu'Élie a vécu la même chose et que de nombreux autres chrétiens passent actuellement par celle-ci sans que vous en soyez au courant, sans nous trop préoccuper par votre crise. Il ne s'agit pas d'une conséquence d'un péché, mais au contraire d'une vraie crise voulue par Dieu qui veut vous amener plus loin. Comme Élie, acceptez la main tendue de Dieu dans ces moments de détresse et accepter également les conclusions qu'Élie a découvertes, à savoir une redécouverte d'un Dieu relationnel et personnel, une redécouverte de la nécessité d'une communion réelle, fraternelle, qui va au-delà du Sava du dimanche matin, une redécouverte de ce que nous sommes vraiment. Accepter de vivre cette incertitude confiante pour notre vie. C'est sans doute le premier pas de notre libération que Dieu désire pour nous. Je vous invite à prier. Père éternel, tu connais nos vies parfaitement, tu vois les hauts et les bas par lesquels nous passons et tu vois, Père éternel, que tu désires nous purifier comme l'or. Père éternel, merci pour ce texte qui nous a montré la faiblesse de ce grand homme que nous présentons souvent comme un homme extraordinaire, Élie, un serviteur, mais qui, tu vois, a été comme chacun d'entre nous. Et à travers cette crise profonde, tu as voulu faire connaître mieux encore ce que tu étais, ce qu'il était. Comme l'apôtre Paul, comme pour nous aujourd'hui, tu désires faire une heure profonde dans nos vies. Et nous prions, Père éternel, que nous puissions accepter cette incertitude avec confiance. Une confiance basée sur un Dieu qui, comme nous l'avons vu au début du culte, qui est fidèle.